Ce nouveau thème traduit aussi un renouvellement des questionnements sur les espaces ruraux, et notamment on le perçoit bien à travers l'actualité quotidienne. On témoigne, pendant l'été, la visite du chef de l'État dans la commune de Berduy, dans l'Orne, une visite, selon les journalistes, aux oubliés des campagnes, la nouvelle loi agriculture et alimentation, qui mécontente producteurs et distributeurs, le lancement du loto du patrimoine, dont beaucoup de sites sont dans l'espace rural, mais aussi la démission de plus de 1000 maires depuis les élections de 2014. Ces questionnements se traduisent dans la vie scientifique également. Les colloques récents et à venir en géographie rurale en attestent. Il y a eu au mois de juillet le colloque des ruralistes de l'Union géographique internationale à Saint-Jacques-de-Compostelle sur les systèmes ruraux infinis sur une planète finie, réduire les écarts vers la durabilité. Le colloque de la commission de géographie rurale du CNFG à Nanterre il y a quelques semaines sur la grande exploitation, forme et contour dans un nouvel âge du capitalisme agricole et les rapports ville-campagne. Et puis dans quelques jours, le nouveau colloque du CNFG organisé par la commission de géographie rurale et la commission de biogéographie sur les sols convoités à l'université de Valenciennes. Donc, une actualité importante autour des espaces ruraux et en moins d'une heure, une intervention qui va essayer d'apporter quelques éclairages sur les espaces ruraux métropolitains depuis les années 1990. Cette décennie, ces décennies 90, elle a été marquée par une publication importante. Notamment l'ouvrage de Bernard Kayser, La Renaissance rurale, en 1992, qui faisait écho, si l'on peut dire, à celui de Roger Béteille sur la crise rurale, paru en 97. Deux approches opposées, notamment dans la façon d'appréhender les mutations des espaces ruraux, une approche pessimiste de la fin d'un monde et de l'autre, une approche optimiste de son renouvellement apporté par de nouvelles populations. Loin des clichés qui tendent à uniformiser ces espaces et à leur coller des images passéistes, il s'agit surtout de montrer et d'insister sur la diversité et la complexité des espaces ruraux d'aujourd'hui, de leur recomposition et de leur trajectoire sociale et spatiale. Ce ne sont donc pas des résultats de recherche personnelle, même si certains documents et réflexions sont issus des travaux individuels et collectifs menés au laboratoire ESO. Ce sont avant tout des repères sur ces espaces ruraux contemporains. Des repères qui ont été largement puisés dans l'ouvrage qui passe actuellement dans la salle, dirigé par Yves Jean et Laurent Rieutor, chez Armand Collin. C'est une présentation en trois temps. D'abord, saisir la France rurale au début du XXIe siècle. Quels sont les indicateurs que l'on peut mobiliser pour aborder ces campagnes? Deuxième point, des populations et des activités et des fonctions en renouvellement. J'ai fait quelques choix pour aborder tous ces éléments. Et enfin, des espaces aux trajectoires diversifiées pour montrer la diversité de ces espaces à l'échelle nationale. Saisir la France rurale aujourd'hui, au-delà des représentations sur les espaces ruraux, et des représentations qui sont nombreuses, c'est d'abord faire référence à certains éléments d'aujourd'hui, notamment la disparition du terme de rural. On le constate notamment dans la nomenclature des formations du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Depuis 2015, le terme de rural a disparu. C'est aussi la disparition dans la nomenclature de l'INSEE. J'y reviendrai. C'est pour le géographe Gérard-François Dumont un meurtre géographique. C'est paru dans un article dans les annales de géographie. Mais au-delà de ces anecdotes qui n'en sont pas vraiment, les géographes abordent les réalités rurales à partir de plusieurs critères. Le premier est démographique et morphologique. Il consiste à définir, et ce, depuis 1846, un espace en creux par rapport à l'espace urbain. Tout espace qui n'est pas urbain est rural, en considérant qu'une unité urbaine, terme défini en 1954, est constitué d'un ensemble d'une ou plusieurs communes de plus de 2000 habitants et dont le semi d'habitation est continu. Avec cette définition, on peut cartographier, comme l'a fait Laurent Rieutor, les communes peu peuplées et au bâti peu dense. Elle représente aujourd'hui 80% des communes françaises au recensement de 2010 et à peu près 22% de la population. Cette approche soulève beaucoup de critiques. D'abord, le seuil de 2000 habitants. Adopté au moment du maximum démographique des campagnes, il semble aujourd'hui inadapté au regard de ce qui fait une ville aujourd'hui. L'ONU, par exemple, retient le seuil de 5000 habitants à l'échelle mondiale. Ensuite, la règle des 200 mètres, en dessous de laquelle le bâti est jugé continu et urbain. Il doit être appréhendé au regard de l'essor des zones commerciales et industrielles considérées comme des zones bâties. Enfin, c'est un périmètre qui évolue. Géographiquement, on constate une réduction de l'espace rural à chaque recensement lorsque des communes rurales deviennent urbaines par croissance de la population ou rattachement à des unités urbaines, ce qui rend la comparaison difficile entre deux dates. Seule une analyse à périmètre géographique constant permet de mesurer la dynamique en cours. Dans cette approche, en 2016, il y a 28 588 communes qui sont considérées comme des communes rurales en France, contre 31 935 en 1975. Et leur population est passée de 12,7 millions d'habitants en 1999 à 13,9 millions en 2010. C'est le constat donc d'une population en augmentation dans ces communes rurales. Cela conduit à saisir l'espace rural à partir des flux de population entre ville et campagne. La dissociation croissante entre le lieu de résidence et celui de l'emploi explique le processus d'étalement urbain et de diffusion du bâti en zone rurale. Il en résulte une approche de l'influence des villes sur leur espace que la statistique publique mesure depuis plusieurs décennies. Ce furent d'abord, en 1962, les zones de peuplement industriel et urbain, les ZPIU. D'abord opérationnelles, elles se sont vite montrées obsolètes avec l'essor des migrations pendulaires, puisque trois quarts du territoire métropolitain et 96% de la population en 1990 étaient dans ces zones de peuplement industriel et urbain. Elles sont remplacées en 1990 par le zonage en aire urbaine. Ce zonage définit des espaces à dominante urbaine dans lesquels on distingue des pôles qui procurent au moins 5000 emplois et leurs auréoles, où au moins 40% de la population va travailler à la ville. Tout ce qui n'est pas compris dans l'espace à dominante urbaine est relégué dans une catégorie un peu fourre-tout de l'espace à dominante rurale. La carte permet d'identifier l'aire d'influence des pôles qui sont pourvoyeurs d'emplois sur leur espace proche. Une carte réalisée au même moment entre l'INSEE et l'INRA, avec les mêmes critères, emploi et navette domicile-travail, a donné de la consistance à ces espaces à dominante rurale. On y voit notamment les aires d'influence des pôles ruraux, ces pôles ruraux qui offrent au moins 1500 emplois et qui polarisent sur cet espace. Réactualisées à chaque recensement, ces cartes, désormais sans référence au rural, comme on peut le constater dans la légende de cette carte, s'inscrivent dans le processus de métropolisation. Définir ainsi l'espace rural interroge et doit être relativisé. C'est ce que signalent Pierre Pistre et Frédéric Richard dans l'ouvrage cité, et je les cite, étant donné que la population active occupée représente souvent qu'une minorité de la population communale, on ne peut pas considérer un seul type de mobilité, la mobilité domicile-travail, d'une minorité, 40% des actifs occupés, elle-même d'une minorité, les actifs occupés dans la population totale, pour refléter les dynamiques spatiales. Donc il y a évidemment un biais pour refléter, pour aborder ces espaces. Pour cette raison, selon Laurent Rieutor, un critère géographique reste pertinent. Essentiel à l'approche des espaces ruraux, c'est celui de la densité de population, qu'il convient de saisir, dit-il, sans considérer les villes et les campagnes comme des isolats, mais au contraire, affirme-t-il, comme des espaces en interaction dans un système global. Reste à identifier les seuils pour approcher cette densité. La basse densité de population est-elle à moins de 30 habitants au kilomètre carré, à 10 ou à 50 habitants au kilomètre carré? L'INSEE a réalisé une grille de cette densité de population à l'échelle nationale en réalisant une analyse de la distribution fine de la population à l'intérieur de carreaux de 1 km de côté et en observant les zones agglomérées. L'INSEE distingue ainsi quatre catégories, les communes densément peuplées, au moins 50% de la population vit dans des zones d'une densité supérieure à 1500 habitants km carré, des communes de densité intermédiaire, 50% de la population dans des zones entre 300 et 1500 habitants km carré, des communes peu denses, 50% de population entre 25 et 300 habitants km carré, et des communes très peu denses, 50% de la population vit dans des zones de densité inférieure à 25 habitants km carré. Dans ce cadre, les zones peu et très peu denses représentent les 9 dixièmes de l'espace métropolitain et 35% de la population. Au sein de ces zones, des espaces de moins de 15 habitants au kilomètre carré sont qualifiés aujourd'hui de zones hyper rurales. Elles ne procurent que 4% des emplois, mais abritent quand même un tiers des actifs occupés français. Cette fragilité supposée de ces zones de faible et très faible densité de population met néanmoins en évidence que ces espaces accueillent de nouvelles populations, et notamment des catégories sociales de profession intermédiaire, et ces nouvelles populations sont source d'emplois et d'économies résidentielles, liées à l'économie résidentielle, et j'y reviendrai. On a donc une recomposition sociale et économique des espaces très peu denses, Laurent Rieutor a montré dans ses travaux, et j'y reviendrai, que ces territoires souffrent néanmoins d'un déficit de dialogue rural-urbain, d'une insuffisante multifonctionnalité, j'y reviendrai. Enfin, d'autres approches sont possibles pour saisir ces espaces ruraux. Ce sont des approches classiques, économiques, du poids des activités, des approches sociales, avec la part de populations âgées, la faible mobilité, l'éloignement aux services, mais aussi des approches paysagères, avec l'occupation du sol, la faible anthropisation, qui renvoie notamment à la dimension environnementale que des géographes ont choisi comme entrée pour une étude renouvelée des campagnes. Enfin, on ne peut pas passer sous silence l'approche par les bassins de vie. Ces bassins de vie, ici pour l'ex-région Basse-Normandie, qui identifient le vécu des habitants, leurs pratiques et leur mobilité. Le bassin de vie, c'est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès à des équipements et à des services dits de second niveau. On peut mettre derrière ce niveau le collège, la gendarmerie, le supermarché, le médecin, la pharmacie. En 2012, la carte nationale par bassin de vie identifiait un peu plus de 1600 bassins de vie, dont 1287 bassins de vie ruraux. Et ces bassins de vie ruraux, au-delà des frontières administratives, permettent d'identifier les bourgs-centres, entre 500 et 2000 habitants, et les petites villes, entre 2000 et 20 000 habitants, qui ont un rôle structurant dans les territoires ruraux. Dans tous les cas, les approches statistiques et leurs limites, malgré leurs limites, soulignent tous le rôle déterminant de la ville, dont l'influence, plus ou moins forte, est essentielle à la compréhension des dynamiques sociales et spatiales actuelles. Ces approches, elles renvoient à des dimensions idéologiques connues, à la ville, le progrès et la modernisation, à la campagne, l'archaïsme et le retard de développement. Des dimensions idéologiques qui renvoient elles-mêmes à des explications théoriques, celles du continuum, la diffusion de la ville sur la campagne et l'homogénéisation des espaces, celle du maintien de la spécificité des espaces ruraux et de leur utilisation, surtout agricole, celle de la distinction entre les espaces géographiques, paysages, l'espace social, les habitants et leurs pratiques, l'espace symbolique, les valeurs de la ruralité, ou encore en montrant le rôle original des campagnes dans les modes d'habiter, c'est-à-dire la campagne comme un lieu, une étape dans le parcours résidentiel des ménages. Car ce qui caractérise les dernières décennies, ce sont bien les mutations démographiques, comme celles des activités et des fonctions, C'est l'objet de la seconde partie. Depuis les années 1980, les espaces ruraux se caractérisent par une reprise démographique quasi généralisée. Les cartes de Bouron et Georges dans l'ouvrage des territoires ruraux en France montrent, et plusieurs intervenants du séminaire enregistré sur la forge numérique ont abordé cette reprise démographique. Les auteurs ici cités, Bouron et Georges, ont bien montré les temporalités de cette reprise. C'est le résultat de plusieurs types de migration et de mobilité. C'est l'installation des ménages qui ont quitté le cœur des agglomérations. Ce sont des migrations interrégionales liées à des formes d'héliotropisme et à l'attractivité croissante des métropoles régionales. Ce sont aussi des migrations internationales, de Britanniques, de Néerlandais, de Belges, dans le sud et l'ouest, favorisées notamment par l'essor de lignes aériennes low cost ou de liaisons aisées. On perçoit bien cette dynamique démographique sur cette carte générale de l'évolution de la population par bassin de vie entre 1999 et 2013, élaborée par le Commissariat général à l'égalité des territoires, qui a remplacé la DATA, et qui permet de distinguer entre les apports migratoires et ou l'excédent naturel. C'est aussi l'existence, il faut le signaler, de poches de régression de la population. Parce que derrière ce regain démographique, il y a quand même des exceptions. On le distingue notamment sur cette carte réalisée pour l'ouvrage et qui concerne les départements et les régions de l'Ouest. Au cœur d'un espace qui est démographiquement dynamique, restent des communes qui perdent de la population à chaque recensement. On les voit bien, c'est le type 9 sur le tableau, de déclin continu au cœur du bocage normand et entre les monts d'Arrée et la montagne Noire, à la frontière entre le Finistère, les Côtes d'Armor et le Morbihan. D'autres espaces, après avoir connu la reprise, perdent à nouveau de la population, notamment depuis la crise économique de 2007 et 2008, qui a notamment freiné de nombreux projets d'installation. Au-delà de cette approche démographique générale et à nuancer, c'est le contenu des migrations qu'il faut analyser. L'analyse des profils socioculturels et socioprofessionnels des populations installées conduit des auteurs comme Pierre Pistre et Frédéric Richard à évoquer une forme de spécialisation sociale des espaces ruraux, notamment en identifiant les figures extrêmes des catégories sociales présentes. Les espaces ruraux présentent en effet une surreprésentation des personnes en situation de pauvreté, difficile à appréhender parce que souvent tues, comme l'avait dit déjà en ces lieux Alexandre Pagès, puis Emmanuel Bonnerandi pour la Thierrache, la pauvreté est particulièrement présente dans les espaces ruraux peu denses et elle affecte aussi bien les retraités que les actifs des activités en crise. Un autre versant concerne le processus de gentrification rurale, dont viendra nous parler Greta Tomasi dans quelques mois. Derrière l'expression, il faut voir l'installation de ménages dotés d'un capital économique, social et culturel supérieur à celui de la population locale. On le mesure notamment par l'apport de professions intermédiaires, cadres et professions intellectuelles supérieures. C'est plus de 2 millions d'individus entre 1980 et 2014 et une augmentation de la proportion de bacheliers multipliée par 4 depuis 1982. Au final, ces catégories sociales influent les sociabilités locales, investissement dans les investissements immobiliers, dans les associations, dans les élections et finalement aussi dans toutes les politiques de territoire. Toutes les transformations démographiques s'inscrivent dans un contexte économique particulier, de modernisation des économies, de métropolisation des territoires, de mutations technologiques, de crises économiques et financières. Leurs effets sont connus à travers le recul des emplois agricoles et industriels et d'une tertiarisation des activités. En agriculture, globalement, l'érosion du nombre de structures et d'emplois se poursuit partout, comme on peut le voir sur ces deux documents, sur la carte, 1988-2010, et sur le tableau entre 2010 et 2016. Même si pendant la dernière décennie, il y a eu un ralentissement du rythme de disparition des exploitations, moins de 1,9% contre moins 3% pour la période précédente. De plus, l'érosion est spatialement différenciée. Elle touche fortement les régions d'élevage. C'est ce qu'a mis en évidence notamment les travaux de Thibaut Preux pour le département de la Manche, avec des effets sur l'agrandissement des structures et l'essor des formes sociétaires. Mais surtout, dit Daniel Ricard, les 900 000 emplois apportés par 430 000 exploitations, moins de 3% de la population active totale, n'ont qu'un faible rôle dans les dynamiques socio-économiques locales. Dans un système agricole productiviste où la règle est à l'agrandissement des structures par absorption des plus petites, la valeur ajoutée est majoritairement captée hors des espaces ruraux et peu réinvestie dans le développement local. Dans un contexte de diminution des emplois, les emplois de l'industrie et de l'artisanat marquent encore les espaces ruraux français. En effet, la rubrique fabrication dans l'industrie est le premier secteur d'emploi dans l'espace rural avec 14% des emplois. Mais ça monte jusqu'à 20% dans le Jura, en Vendée, en Haute-Saône, en Mayenne, dans les Vosges, dans la Haute-Loire. Dans un quart des bassins d'emploi, les ouvriers dépassent les 40% des emplois proposés. Les principaux gisements du secteur, emplois du gisement du secteur secondaire sont la transformation des produits agricoles ou du secteur primaire, comme on peut le voir ici pour cette carte de l'Ouest, où il y a le lien entre les exploitations d'élevage et les emplois liés à l'agroalimentaire. Ce sont aussi des activités sensibles, nucléaire, traitement des déchets, un artisanat local, traditionnel, qui s'est industrialisé. La vallée de l'Arve en est un exemple, avec le décolletage et la mécanique de précision. C'est aussi un des exemples le plus cités, de la région de Cholet, avec l'ancienne industrie de la chaussure et plus particulièrement du textile aujourd'hui en Maine-et-Loire, où a été créée il y a quelques années la structure Mode Grand Ouest, comprend une centaine d'entreprises et de structures. Ce sont aussi des industries issues de la politique de décentralisation industrielle des années 60 et qui ont résisté à la crise, notamment dans l'industrie automobile et avec un réseau de sous-traitance toujours présent, comme on peut le voir en Normandie autour de Flers. Enfin, des initiatives locales caractérisées par la valorisation des ressources ancrées sur le territoire. Il faut noter que dans les espaces de très faible densité de population, la densité d'entreprises artisanales est la plus forte. Plus de 200 pour 1000 habitants. C'est le cas en Lozère, dans la Creuse, dans le Cantal et dans les Hautes-Alpes, des départements où les nouveaux habitants et la réhabilitation du bâti portent les emplois dans la construction. Quant à la tertiarisation des emplois, qui est générale à l'échelle nationale, 75% de l'emploi total aujourd'hui en France, elle est portée à la fois par la dynamique résidentielle et l'essor du tourisme. Les emplois de service à la population dessinent une géographie bien particulière en privilégiant la périphérie des grandes agglomérations et les pôles ruraux et leur proximité. Ce renouveau peut paraître parfois fragile, comme on a pu le voir quand la puissance publique a réduit les contrats aidés. D'une façon générale, le regain démographique conduit à la création d'emplois, même dans les espaces les moins densément peuplés. Même avec un regain démographique, l'érosion des structures commerciales s'est poursuivie partout en France. C'est le cas notamment, comme l'a montré Adeline Graby, pour la Normandie, en raison des nouvelles pratiques d'approvisionnement, achats sur le trajet du travail, offres plus larges de grandes surfaces, coûts des produits. Le maillage dense de petits commerces, synonyme de qualité de vie et d'animation, s'est lentement érodé en dépit de nombreuses actions de soutien au commerce dans les espaces ruraux. Dans de nombreuses communes, le dernier commerce fait l'objet d'une attention particulière de la part des élus locaux qui n'hésitent pas à racheter les murs afin de faciliter la reprise du bail commercial, comme l'a montré l'an dernier Nicolas Cahagne pour les bars en Bretagne. De même, des programmes régionaux ont pris la mesure du problème en favorisant les outils du numérique, comme c'est le cas dans la région Pays de la Loire avec le pacte régional pour la ruralité. Et un programme gouvernemental de revitalisation des bourgs-centres lancé en 2014 pour les communes entre 2000 et 10 000 habitants et leurs communes associées a, par exemple, mobilisé des bourgs comme Perrier, Orbec et Pont-Audemer en Normandie. Toutes ces initiatives identifient les activités commerciales comme des vecteurs de la vitalité des campagnes. Elles renvoient plus largement à la capacité des territoires à générer une économie résidentielle, c'est-à-dire l'ensemble de revenus captés par les territoires indépendamment de leur capacité productive. Les emplois de services à la personne, de commerce, du petit artisanat, peu soumis à la concurrence extérieure et destinés à satisfaire les besoins des populations résidentes ou présentes temporairement, sont aujourd'hui un atout pour les campagnes. Si l'économie résidentielle porte l'essor des services privés, le sort des services publics préoccupe plus encore les ruraux. La présence de l'État dans le territoire, liée à la volonté politique de l'État-providence de l'après-guerre, reste ancrée. À la recherche d'égalité des territoires à laquelle devaient participer les services publics, a succédé le principe de l'équité, moins contraignant, qui apporte un accès aux services pour chaque citoyen. L'exemple de la Poste est intéressant de ce point de vue. La Poste, c'est aujourd'hui une présence postale sous forme soit de guichet, soit d'agence postale communale, soit d'un relais postal, avec des niveaux de services très différents. Avec la baisse de l'activité courrier, la Poste devient un prestataire de services à domicile. Livraison de courses, aide à remplir des papiers administratifs, relever le compteur gaz, installer un boîtier de téléassistance, surveiller la voirie, créer le service « Veiller sur mes parents ». Ce sont des prestations aujourd'hui que propose la Poste avec un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros en 2015 et une prévision de 450 millions d'euros en 2020. Mais on est ici dans l'équité et non plus dans l'égalité de l'accès aux services. Et plus généralement, les travaux montrent, selon l'expression de François Tolel, que les vides du territoire existent, surtout dans les espaces de faible densité. Pour les habitants de 250 bassins de vie hyper-ruraux, à peu près 30% du territoire et 6% de la population, il faut plus de 17 minutes pour accéder aux services du pôle rural, mais c'est aussi 11% des Français qui n'ont pas accès à un Internet de qualité aujourd'hui. Le constat renvoie à un sentiment d'abandon en matière scolaire, en matière de santé, surtout exprimé par ceux qui ne disposent pas d'un accès facile à la mobilité. Il renvoie aussi à une spirale négative du développement que traduit bien Magali Talandier. L'offre de services, dit-elle, si elle est induite, peut également être inductrice de développement. Les solutions portées par l'État sont liées à la réorganisation et au regroupement des services. Les maisons de services publics en sont un exemple. Mais c'est aussi, ce qui va arriver, la dématérialisation complète d'ici 2022 des services de l'État dans un plan qui s'appelle Action publique. Encore faut-il accéder à ces services et savoir s'en servir. Enfin, avec le leitmotiv de la réduction de la dépense publique, l'État s'est engagé dans un partenariat privé-public dans la construction de lieux de service et qui incite notamment les collectivités à innover dans ce cadre. Au final, la lassitude gagne dans les combats engagés à l'échelle locale et On peut le voir notamment avec ce que je disais tout à l'heure en introduction, avec un nombre de maires importants qui démissionnent depuis les élections 2014, qui sont le reflet autant de difficultés économiques, financières, que le sentiment issu de la loi NOTRe concernant la réorganisation des services de gestion et administratif sur les territoires. Des solutions émergent, autant par la diversification des activités que par l'essor de nouveaux modèles de développement, en lien notamment avec ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Pour Samuel Arlot, certains enjeux bien identifiés dans les espaces ruraux, comme la paupérisation, le vieillissement de la population, l'isolement des personnes âgées, la limitation des ressources en énergie, la fracture numérique ou la suppression des services publics, peuvent être résolus par certaines innovations sociales, notamment en mobilisant des acteurs identifiés du monde associatif, des entreprises, des collectivités territoriales, des fondations. Ces nouveaux services peuvent en effet répondre à des besoins sociétaux auxquels ni l'État ni le marché ne peuvent ou ne veulent répondre seuls, notamment en apportant une réponse multidimensionnelle, liée par exemple la santé et l'alimentation dans les EHPAD, favoriser le travail en commun, par exemple. Au final, il est avéré que le renouvellement des populations des espaces ruraux s'inscrit dans une recomposition des fonctions de l'espace rural. Parmi celles-ci, j'en ai choisi deux qui sont au cœur de l'actualité, c'est la fonction de production alimentaire et la fonction de protection des espaces. Depuis les années 60, on a assisté à une déconnexion croissante entre les espaces de production et de la consommation alimentaire. La modélisation de l'agriculture, telle qu'on l'a appelée, le progrès des transports, le développement des industries agroalimentaires et l'urbanisation des modes de vie ont favorisé une spécialisation spatiale des productions et l'élargissement des aires d'approvisionnement alimentaire à l'échelle nationale et mondiale. L'essor des systèmes alimentaires industrialisés et mondialisés a conduit à ce qu'on appelle une déterritorialisation de l'agriculture. La répétition des crises sanitaires retentissantes a interroge de plus en plus le progrès technique en agriculture et débouché sur de nouvelles attentes sociales à l'origine d'un processus de territorialisation de l'agriculture. Cela a suivi un processus en trois phases depuis les années 90. D'abord, un retour de l'agriculture vers le territoire, en insistant, dit Laurent Rieutor, sur la nouveauté de la relation qui s'appuie sur la reconnaissance de fonctions économiques, sociales et environnementales de l'agriculture. Ça a été exprimé dans le concept de multifonctionnalité dans la loi d'orientation agricole de 1999 et qui aussi a débouché sur le concept de système agroalimentaire localisé, le SIAL. C'est le début d'un engouement pour les circuits courts, je vais un peu vite, sur les circuits courts alimentaires qui a réactivé des formes de commercialisation anciennes et qui s'appuie notamment sur des produits identifiés, labellisés, dont la dynamique est encouragée par les pouvoirs publics, notamment en agriculture biologique, dont on voit ici la progression à travers les surfaces de conversion, c'est-à-dire aujourd'hui à peu près 6,5% de la surface agricole utilisée à l'échelle nationale, mais avec des disparités extrêmement fortes sur l'ensemble du territoire métropolitain. Dans les années 2000, c'est l'essor des systèmes agroalimentaires alternatifs, comme les AMAP, l'Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, émanant de groupes de citoyens et d'acteurs agricoles engagés qui ont mené une résistance à la globalisation des systèmes alimentaires. On peut le voir notamment à deux échelles différentes, à l'échelle des producteurs et des collectifs de consommateurs dans le Calvados, ou ici à l'échelle nationale sur les exploitations qui commercialisent en circuit court en 2010. Enfin, depuis les années 2010, la relocalisation alimentaire apparaît comme une des réponses à la crise agricole. Elle conduit à redessiner une géographie alimentaire qui redessine une agriculture de proximité urbaine, des campagnes rurales attractives, bien dotées en produits de qualité, et une géographie inversée des spécialisations agricoles, c'est-à-dire que les régions les plus productrices de denrées agricoles sont les moins impliquées dans les circuits courts. Mais là aussi, les initiatives se multiplient, comme le montre cet exemple que j'ai puisé il y a quelques jours lors du colloque de géographie rurale de Nanterre, en allant visiter dans le programme du colloque une exploitation des Yvelines où un céréalier installé en 1981 en céréaliculture conventionnelle s'est d'abord converti en agriculture biologique en 2000, puis a installé un moulin en 2006 qui lui permet de valoriser sa production de céréales et celle de son voisin, également converti à agriculture biologique, ce qui lui permet en 2018 de produire 180 tonnes de pain bio par an qu'il distribue auprès de 27 points de vente, dont un tiers d'AMAP, un tiers de détaillants et un tiers de cantines, et en vente sur place, dans un local commercial, un petit sur la ferme, avec une exploitation qui, on va dire, en chiffre d'affaires, est beaucoup moins importante aujourd'hui que la production de pain, et surtout qui va permettre d'installer, deux fils sur l'exploitation, un pour la production céréalière, l'autre pour la production de pain, avec la création de deux lieux de vente collectifs sur la ville de Paris. Donc on voit ici comment cette exploitation va multiplier son nombre de travailleurs sur l'exploitation en changeant de système et en diversifiant l'activité, en mettant en pratique la multifonctionnalité agricole sur l'exploitation. En même temps qu'elle, comme on peut le voir, qu'elle s'inscrit dans trois structures juridiques différentes, un GAEC, une SIC et une SARL. Preuve un peu de la complexification des exploitations agricoles aujourd'hui qui n'ont pas seulement une activité de production, mais une activité de transformation, de vente, etc. Cette reconnexion entre l'agriculture et l'alimentation s'appuie notamment sur de nouveaux acteurs, en particulier des acteurs publics. Le fait n'est pas nouveau, mais il s'inscrit dans la loi 2014 sur l'avenir de l'agriculture, l'alimentation et la forêt, qui crée les projets alimentaires territoriaux, qui visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs. Ils sont déjà nombreux dans les territoires à dominante urbaine, car ils visent l'autonomie alimentaire à partir des filières locales. Mais ce ne sont pas seulement les grandes villes. Aujourd'hui, ces programmes alimentaires territoriaux, concernent toutes les catégories de villes qui sont engagées autour de circuits courts d'approvisionnement en produits alimentaires, mais aussi, plus innovant, vers l'achat de terres agricoles et de l'installation même d'agriculteurs. L'autre fonction sur laquelle je souhaite m'attarder un petit peu, c'est la fonction nature des espaces ruraux. Elle met en lumière une demande croissante de biens de nature privée et publique et la mise en protection d'espaces dits naturels. Le défi est de taille. Il s'agit de gérer, valoriser, protéger des espaces qui sont reconnus pour leur valeur environnementale, pour leurs aménités et pour leurs services, en sachant qu'ils sont aussi pourvoyeurs d'emplois en lien avec les fonctions touristiques et les fonctions résidentielles. Ils sont de ce fait le lieu de nombreux conflits. Des conflits que Farid Benhamou classe en trois catégories. Le rejet d'aménagement de grands équipements publics ou privés, comme le nucléaire ou Notre-Dame-des-Landes. Des conflits liés au rejet de politiques européennes et nationales de protection de l'environnement, concernant les aires ou les espèces protégées. Et enfin, des conflits liés aux mutations de l'agriculture contemporaine, concernant la qualité de l'eau, l'apport des intrants. Au final, l'auteur identifie deux faits majeurs dans ces conflits. D'une part, l'imbrication des acteurs locaux et des acteurs extérieurs dans la contestation. Et j'ai repris ici une carte qui a été faite par Pierre Guillemin sur les signataires d'une pétition contre un élevage porcin dans le Perche. On le voit que ces 1000 signataires contre cet élevage porcin qui doit s'installer dans le Perche, eh bien, dessine une géographie nationale, voire européenne, contre le projet. Donc, imbrication des acteurs locaux et nationaux et extérieurs sur ces contestations. C'est aussi le fait que la nature, aujourd'hui, ce qu'on appelle nature, est perçue de plus en plus comme un bien commun qui montre une vision assez éloignée d'une nature perçue comme le support de l'activité agricole des années 50 à 70. On est vraiment dans une autre façon d'envisager l'espace rural. Pour conclure cette partie, je fais référence à un propos de Jean Renard dans un ouvrage paru en 2002 qui résume assez bien l'ampleur des changements et le rebond annoncé. Les campagnes retrouvent une nouvelle diversité de fonctions associant le fait résidentiel à l'essor d'activités non agricoles et au développement accéléré d'une fonction de loisir ou de plaisance très diversifiée selon les aménités des lieux. Tout se passe comme si la phase ayant conduit à la monofonctionnalité agricole n'avait été qu'un accident de parcours. Ce peut être paradoxalement la chance des espaces ruraux en retard de développement économique qui ont conservé des paysages hérités à peine transformés. Toutes les transformations évoquées conduisent à une différenciation sociale et spatiale de l'espace que les géographes présentent sous la forme de typologie. C'est l'objet de la troisième partie. Il s'agit, dans cette troisième partie, de réduire la diversité à de grands types d'espaces qui, dans leur rapport à la ville, leur trajectoire démographique et leur inégal renouvellement, et l'inégal renouvellement de leurs fonctions, permettent une synthèse de l'évolution des espaces à l'échelle nationale. L'exercice est classique, hein. Depuis les typologies agricoles et paysagères des années 50 à 80, Joseph Latzmann, Aimé Perpillou, Pierre Brunet, et aux travaux actuels proposés par la DATAR en 2004, le Commissariat général à l'égalité des territoires en 2012, mais aussi la typologie de Pierre Pistre, eh bien, les typologies se renouvellent en combinant les approches morphologiques et sectorielles aux dynamiques socio-économiques. On peut en évoquer quelques-unes. C'est ici la typologie du Commissariat général à l'égalité des territoires de 2012 qui présente trois grands types d'espaces ruraux que j'ai choisi d'abord de présenter succinctement. D'abord, les campagnes des villes, du littoral et des vallées urbanisées que l'on voit ici dans les tons ocre à rose. Forte croissance résidentielle depuis une trentaine d'années, 16 millions d'habitants, 10 500 communes. Les conditions, dit le rapport, les conditions de vie et l'économie y sont plus ou moins fortement liées aux dynamiques des métropoles et des villes environnantes. Deuxième type, les campagnes agricoles et industrielles, 5 millions d'habitants, 10 000 communes. Les dynamiques économiques et démographiques y sont très contrastées et les territoires concernés profitent ou subissent les influences urbaines parfois très lointaines. Enfin, les campagnes vieillies à très faible densité, 5,2 millions d'habitants, 12 800 communes, ce sont des campagnes qui, après une longue période d'exode rural, connaissent un brassage de population et parfois un regain démographique. Cependant, le vieillissement de la population reste important, le niveau de revenu parmi les plus faibles et l'accessibilité très en deçà de la moyenne française. On retrouve ce découpage dans la typologie de Pierre Pistre, réalisée à l'échelle des bassins de vie et divisée en trois types, eux-mêmes subdivisés en deux types, comme vous pouvez le voir sur la carte. Mais j'ai choisi, parmi ces typologies, de choisir celle que propose Éric Bordesoulle, dans l'ouvrage cité chez Colin. il identifie de façon analogue, hein, d'abord des campagnes proches des villes, qu'il évoque sous le terme d'une urbanité rurale ou d'une ruralité de l'urbain. Double expression qui concerne des espaces, hein, qui regroupent à peu près 15 millions d'habitants, qui recouvrent les couronnes entre des grandes aires urbaines, entre 50 à 80 kilomètres selon les contextes. C'est, comme le rappelait François Chouet en 99, une non-ville et une non-campagne, c'est-à-dire un espace où, qui se caractérise par une grande diversité de formes et de situations, où se juxtaposent des quartiers résidentiels, de vieux noyaux villageois, des espaces agricoles et forestiers, de loisirs et de zones d'activité. C'est un espace hybride, comme on peut souvent l'entendre, qui couvre, par exemple, 80% de l'espace francilien, dont 28% de forêts domaniales et 50% de terres agricoles. Ce sont des espaces où se côtoient des lotissements pavillonnaires, des demeures aisées et où l'agriculture marque encore le paysage. Elles peuvent bénéficier de la proximité du marché urbain, mais aussi sont confrontées à de nombreux obstacles. La spéculation foncière, la demande d'espace pour l'urbanisation, la fragmentation du parcellaire, les difficultés de déplacement, qui sont à l'origine de nombreux conflits d'usage. C'est aussi un espace d'innovation par l'essor de filières, hein, telles que la vente de produits fermiers à la ferme, les AMAP, les magasins de producteurs. Pour ces espaces, la préservation des terres agricoles a été prise en considération des années 70, avec peu de résultats. Depuis la loi de 99, il existe des zones agricoles protégées qui s'imposent aux documents d'urbanisme. Mais c'est aussi des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces naturels périurbains qui sont censés préserver les espaces agricoles et forestiers. Aujourd'hui, hein, des plans agri-urbains qui fleurissent un peu partout autour de ces grandes agglomérations, avec des effets de ralentissement, hein, indéniable, hein, de l'urbanisation. Deuxième type, des campagnes agricoles et industrielles. Avec moins d'influence urbaine, ces espaces sont l'archétype d'une agriculture modernisée, intégrée à l'industrie agroalimentaire. Ils sont le fruit d'une agriculture dite productiviste, incarnée d'une part par le modèle Beauceron, d'autre part par le modèle Breton, hein, concernant les productions animales. Ce sont aussi des espaces où on trouve des industries fondées sur des ressources territorialisées, avec la présence de matières premières et des savoir-faire. Les perspectives pour ces espaces, hein, pour ces campagnes agricoles et industrielles, sont très inégales. Des difficultés économiques, sociales et environnementales pour les activités agricoles, de même que le déclin d'activités industrielles affectées par la mondialisation. Au contraire, dans l'industrie, comme dans l'agro-industrie, au sein de systèmes locaux innovants, des activités tirent leur épingle du jeu, notamment en valorisant les savoir-faire anciens, travail du textile, par exemple, travail des métaux, et en agriculture, avec la valorisation de produits sous label, comme on peut le voir, hein, dans beaucoup de régions françaises. Troisième élément, les campagnes attractives et multifonctionnelles. Elles se caractérisent par une reprise démographique et l'essor d'activités très diversifiées. Elles sont le fruit d'une rencontre entre des populations nouvelles en attente de cadres de vie et de loisirs et d'une dynamique locale qui repose sur la mise en valeur de ressources du territoire. On y trouve des retraités, de jeunes ménages avec un projet économique, des habitants en situation précaire à la recherche de meilleures conditions de vie, des étrangers de l'Europe du Nord-Ouest qui sont à la recherche d'un rural devenu inaccessible chez eux. Elle conduit à une ou une multi-résidentialité qui génère une nouvelle économie résidentielle et présentielle que Magali Talandier avait présentée en ces lieux. On a donc l'apport important dans ces espaces de revenus exogènes, revenus privés et revenus publics, retraite, aides et prestations sociales, qui représentent dans ces espaces à peu près les 4/5 de la richesse des territoires ruraux d'aujourd'hui, auxquels s'ajoutent les revenus de la population touristique. Ces apports, d'une façon générale, non délocalisables, favorisent le maintien de commerces et de services qui bénéficient à la population résidente. Quatrième type, enfin, des espaces hyper-ruraux qui ont été identifiés comme les espaces de la France du vide, des espaces défavorisés, du rural profond, etc. Le terme d'espace de l'hyper-ruralité provient d'un sénateur de la Creuse qui est à l'origine d'un rapport remis au ministre, au Premier ministre en juillet 2014 et qui s'est intéressé à ces espaces qui résultent d'un long processus de dévitalisation. Ce sont plusieurs départements ruraux qui n'ont cessé de perdre de la population, Creuse, Cantal, Allier, Nièvre, Haute-Marne, Ardennes, et qui, pour certains d'entre eux, en gagnent depuis quelques années. Mais la population y est en général âgée, 30% de plus de 60 ans, 15% de plus de 75 ans, soit 6 points de plus que la moyenne nationale. Ce sont des espaces qui, pour l'essentiel, appartiennent à la médiatique diagonale du vide, avec des densités de population de moins de 30 habitants au kilomètre carré, ce qui représente à peu près 3,4 millions d'habitants. Mais on les trouve aussi de façon très localisée dans d'autres zones de l'espace français. On y lit des marqueurs de la fragilité économique, sociale, démographique, spatiale et environnementale, mais aussi symbolique. Et on voit ici l'exemple pour le Massif central cette cartographie fine des indices de la fragilité. D'autres cartes présentent d'autres indicateurs. Ces indices de fragilité permettent au final d'identifier, de cibler ces espaces et les politiques, notamment de l'État ou des collectivités qui mettent en place, notamment depuis quelques années, les zones de revitalisation rurale, mais aussi les pôles d'excellence rurale depuis 2005, notamment ici dans cette zone du Massif central. En conclusion, dans une société urbaine dominante, l'espace rural convie à mobiliser autant, sinon plus, les représentations sociales que les dimensions fonctionnelles ou matérielles. La ruralité, aujourd'hui, relève d'une construction sociale faite de perceptions, de représentations et de pratiques qui changent au gré des recompositions. Ces représentations, elles réinterrogent notamment une notion ancienne de ruralité qui désignait de façon minimaliste le caractère de ce qui était rural, mais aussi des valeurs propres au milieu rural. Après les années 70, où la notion de ruralité relevait d'une approche idéale de la vie à la campagne, les années 90 ont ouvert de nouvelles perspectives en lien avec la nature et l'environnement. Pour la société dans sa globalité, l'espace rural doit être protégé, étant donné sa capacité à répondre à des fonctions et des usages multiples. Cela renvoie à une campagne parée de valeurs symboliques et de fonctions, entretien de l'espace, qualité de vie, produits sains, qui conduisent à des visions souvent fantasmées du retour au village. C'est de ces constats qu'est apparue l'expression de nouvelles ruralités. Ces nouvelles ruralités se fondent sur le lien et l'interdépendance entre villes et campagnes, et où un dialogue rural-urbain prévaut dans un monde, dans un mode de vie où les habitants revendiquent des appartenances multiples. Ce dialogue rural-urbain a été un thème majeur de l'analyse géographique depuis plusieurs décennies. Je renvoie notamment aux travaux de Nicole Mathieu. Reste-t-il pertinent aujourd'hui pour comprendre les mutations en cours? C'est incontestable. Dans la France métropolisée, dit Monique Poulot, de nouvelles relations fonctionnelles et politiques entre les deux catégories d'espaces s'inscrivent dans une complémentarité et un échange plus équilibré qui repose sur des invariants. Les invariants démographiques, je les ai cités ici, mais aussi des relations fonctionnelles qui se développent. On l'a vu avec la notion de ressources, ressources propres à la campagne, comme les ressources naturelles utilisées à des fins récréatives, fruit d'une demande de paysage envisagée comme un bien commun, mais aussi une ressource alimentaire qui est à l'origine du renouvellement de la géographie agricole en questionnant les systèmes alimentaires en place. Mais attention, ce renouvellement des rapports de complémentarité entre la ville et la campagne ne s'exerce pas partout avec la même intensité. Ce qui est perceptible dans les espaces périurbains des grandes métropoles l'est beaucoup moins dans les petites et moyennes villes, où le constat est plutôt à la dévitalisation. Dans ce cadre, le rôle des villes moyennes et des petites villes est à reconsidérer, car, pour Monique Poulot, que j'ai cité tout à l'heure, les échelles intermédiaires des relations ville-campagne ont été oubliées par les politiques d'aménagement du territoire, mais aussi par la recherche. Pour elle, les bourgs-centres, dont j'ai parlé tout à l'heure, de 500 à 2000 habitants, et les petites villes, entre 2000 et 20 000 habitants, sont les perdantes de la métropolisation. Malgré le gain de population, et même si elles jouent toujours le rôle de maillon essentiel de l'organisation territoriale, avec les équipements de services publics et privés, de nombreux indicateurs sont préoccupants. Dévitalisation commerciale des centres-bourgs, affaiblissement des dessertes ferroviaires, baisse de la population dans la partie centrale des villes. Les logements disponibles, inadaptés et vieillis, sont délaissés, malgré l'arrivée, l'apport de population et la venue de touristes. Ces espaces ont pourtant bénéficié de nombreuses politiques publiques, nationales et européennes. J'ai évoqué l'appel à manifestation d'intérêt Centre-Bourg de 2014, sans oublier l'action Cœur de Ville, lancée en 2017, qui concerne 222 petites villes et moyennes, sans oublier le rôle de soutien de l'Europe au développement rural. Enfin, avec la nouvelle donne institutionnelle engagée par la loi NOTRe, ces bourgs et petites villes sont au cœur de grands établissements publics de coopération communale, les EPCI, dotés de compétences élargies, dont les transports, l'urbanisme, la collecte et le traitement des déchets, la politique commerciale, les aires d'accueil des gens du voyage, les zones d'activité. Puis, à partir de 2018, la compétence concernant les inondations. Et en 2020, l'assainissement de l'eau. Les EPCI sont attendus dans l'amélioration générale et l'efficacité de l'action publique et un meilleur service aux usagers. De ces structures nouvelles, on attend des économies d'échelle et donc une incitation à l'innovation, au développement économique. Pour l'heure, on ne peut pas encore se prononcer sur la réalité de ces économies, mais c'est à cette échelle d'action que semble se jouer l'avenir d'un grand nombre de ruraux. Voilà en quelques traits bien incomplets des espaces ruraux d'aujourd'hui, la complexité que j'ai voulu montrer de leur approche, mais aussi la diversité, une diversité sans doute grandissante de ces espaces ruraux, qui ne peut en tout cas pas se réduire à une approche simpliste et dont on doit intégrer l'étude à une approche, à une réflexion globale sur le territoire métropolitain. Je vous remercie.